Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Steve Rivière. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Regarde ton voisin et lui prends l'habitude d'être heureux en toutes circonstances. Et j'aimerais commencer par le point suivant. Il y a une façon de penser qui est un piège et qui nous empêche d'être heureux en toutes circonstances, qui nous empêche d'être heureux aujourd'hui. C'est la mentalité du quand alors. La mentalité du quand alors, c'est quand je serai marié, par exemple, alors je serai heureux. Quand j'aurai de l'argent, alors je pourrai être généreux. Quand j'aurai du temps, alors je pourrai prier Dieu. Quand j'aurai plus de ceci, je pourrai faire plus de cela. C'est faux. Combien de mariés aujourd'hui, lorsqu'ils étaient célibataires, se disaient « Quand je serai marié, en moins je serai heureux. » Et dès qu'ils sont mariés, ils rêvent de redevenir célibataires. La mentalité de « Quand, alors je serai heureux », c'est faux. Ça ne nous permet pas ça d'être heureux. Il faut comprendre ça, ça c'est un piège. Et il y a d'autres pièges, d'autres obstacles qui nous empêchent de prendre l'habitude d'être heureux. Il y a quatre obstacles généraux qui étouffent notre joie. Le premier, c'est les souffrances et les peines. Il est difficile de se réjouir lorsqu'on souffre, oui ou non ? Qu'on souffre émotionnellement, qu'on souffre psychologiquement ou qu'on souffre physiquement, il est difficile de se réjouir quand on est dans la souffrance. Donc la souffrance peut être un obstacle qui nous empêche d'être heureux. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les voleurs de joie. En France, on dit les rabat-joie, c'est-à-dire les personnes qui sont spécialistes pour voler ta joie. C'est-à-dire les gens qui réellement savent s'y prendre pour faire en sorte que tu puisses ne plus être heureux. Il y a des gens qui sont en guerre en eux-mêmes, ils peuvent être irrités, frustrés, en colère, ils peuvent être arrogants. Là, quelqu'un d'arrogant a tendance à voler la joie. Quelqu'un de tout le temps négatif a tendance à stopper ta joie. Quand tu parles de quelque chose qui te réjouit, tu dis « Oui, mais tu sais, aujourd'hui avec la crise, ça va mal aller. » Et toi, tu es en train de le dire « Ouais, c'est super, je vais avoir un travail. » Ouais, mais avec les impôts que tu vas payer, ça ne va pas être aussi bien que ça. Et tous les charges que tu auras à faire. Donc franchement, ton travail... Le genre de personnes qui sont douées. Ils ont passé un diplôme pour voler ta joie. Et il y a des gens comme ça. Tu es tout content, tu vas à ton travail, tu écoutes la parole de Dieu, tu sors de la prière le matin, tu as la paix de Dieu est là, tu as ton travail, tu as un collègue qui vraiment est lui irrité, qui irrite tout le monde par exemple. Ça peut arriver. Un autre point, c'est la pression. La pression qu'offrent les circonstances. La pression de la vie... Ça enlève la joie. C'est pour ça que Jésus a dit « Prenez mon joug qui est doux et léger. » Parce qu'il savait qu'il y a des jougs lourds qui fait peser une pression néfaste et mauvaise. Et ça aussi, ça vole la joie. Quand la pression extérieure rentre à l'intérieur, ça vole la joie. Un autre point, un autre obstacle majeur, c'est les problèmes. Il y a toutes sortes de problèmes qui peuvent voler notre joie. Toutes sortes de difficultés qui peuvent voler notre joie. Des problèmes qui créent l'inquiétude. Essaie d'être joyeux quand tu es inquiet. Fais un essai. Essaie d'être joyeux quand un problème, tu es en train de tellement t'inquiéter que tu médites sur ton problème. Tu médites, tu es concentré sur ton problème. Essaie d'être joyeux. Et ça, il est difficile d'être joyeux lorsqu'on est inquiet. Et on continue ce matin la lecture du livre aux Philippiens, qu'on avait commencé avec le pasteur Bruno, parce qu'on va, en fin de compte, toute cette série va se baser sur le livre des Épîtres aux Philippiens. Parce que c'est l'épître la plus joyeuse de la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul insiste sur la joie, alors qu'il est en prison, alors que ça fait près de 4 ans qu'il vit une vie de prisonnier. Ça fait 4 ans qu'il n'a plus de liberté. Il est là en plus à Rome, à ce moment-là où il écrit la lettre aux Philippiens. C'est un prisonnier de la garde prétorienne, la garde royale. Il est surveillé 24 heures sur 24. Il n'a plus d'intimité. Lorsqu'il doit aller faire pipi, par exemple, il faut qu'il fasse une lettre de recommandation, accusé réception, pour qu'on sache où il part, où il est. Et dans ces circonstances-là, il écrit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je le répète, soyez toujours joyeux. Il est dans des circonstances très difficiles. En plus, les gens l'attaquent. Et les 4 grands obstacles dont on a parlé, il en parle lui-même dans la lettre aux Philippiens. Et on va donc poursuivre cette lecture. Pasteur Bruno s'est arrêté au verset 11 du chapitre 1. Et on a une longue lecture à faire du chapitre 12 au verset 30 ce matin. Mais j'aimerais vous dire ceci avant de rentrer dans le vif du sujet. Être heureux en toutes circonstances, c'est plus facile à entendre qu'à pratiquer. Oui ou non? Mais c'est possible. Et lorsque ça nous paraît impossible pour nous, c'est possible pour celui qui vit en nous. Parce que rien n'est impossible pour celui qui croit. Regarde ton voisin et dis-lui, est-ce que tu crois que c'est possible d'être heureux en toutes circonstances? Il y en a qui fait comme ça. Alors malheureusement, vous ne serez pas heureux en toutes circonstances. Parce que tout est possible pour celui qui croit. Et si déjà tu ne crois pas, ce ne sera pas possible. Parce que tout dépend de la foi. Alors que l'apôtre Paul ici prouve qu'il est possible. Et quand la tristesse arrive et quand les difficultés arrivent, il est possible d'aller rechercher la joie de Dieu. Parce qu'il vit en nous. Donc Philippiens 1, du verset 12 au verset 30. Il est écrit, « Frères et sœurs chrétiens, je veux vous dire une chose. En réalité, ce qui m'est arrivé a servi à faire avancer la bonne nouvelle. En effet, tous les fonctionnaires du gouverneur et tous les autres savent maintenant que je suis en prison parce que je sers le Christ. Presque tous les chrétiens, en voyant que je suis en prison, ont une plus grande confiance dans le Seigneur. Alors, ils ont 2 fois plus de courage pour annoncer sans peur la parole de Dieu. Certains annoncent le Christ avec un bon cœur, ils le font par amour, ils savent que je suis en prison pour défendre la bonne nouvelle, mais d'autres le font par jalousie. Ils veulent s'opposer à moi et ils annoncent le Christ pour passer les premiers. Leurs raisons sont malhonnêtes, et de cette façon, ils pensent rendre plus dure ma vie en prison. Leurs intentions peuvent être droites ou tordues, peu importe. En tout cas, ils annoncent tous le Christ. C'est pourquoi je suis dans la joie et je me réjouirai encore. En effet, le résultat, je le connais. Je serai sauvé par vos prières et avec l'aide de l'Esprit de Jésus-Christ. Je désire que cela arrive et je l'espère vivement. Je ne le regrette pas. Au contraire, je garde une grande confiance. Aujourd'hui, comme toujours, on verra en moi que le Christ est grand. Soit par ma vie, soit par ma mort. Oui, pour moi, vivre, c'est le Christ. Et si je dois mourir, j'y gagne. Mais si en continuant à vivre, je peux faire un travail utile, je ne sais pas quoi choisir. Je suis tiré des 2 côtés. J'ai envie de quitter cette vie pour être avec le Christ, et c'est en effet beaucoup mieux. Mais rester sur la terre, c'est plus utile à cause de vous. C'est pourquoi je sais que je vais rester, j'en suis sûr. Je serai auprès de vous tous pour vous aider à faire des progrès et à croire avec joie. Et à croire avec joie. Je m'arrête là un instant parce que je prie ce matin, vous puissiez recevoir la parole de Dieu avec joie. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la Bible dit aussi que parfois, le peuple dans le désert n'a pas reçu la parole avec foi. Et cela leur a été d'aucune utilité. Ce matin, je te prie, reçois la parole avec foi. Parce qu'elle aura la puissance de te permettre de te réjouir en tout temps. Il continue en disant, ainsi, quand je reviendrai chez vous, vous serez encore plus fiers à cause de moi dans le Christ Jésus. Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile du Christ, en vrai citoyen de son royaume. Ainsi que je vienne vous voir, ou que je reste loin de vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon. Unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur, pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. Sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. C'est pour eux le signe qu'ils courent à leur perte. Et pour vous, celui que vous êtes sauvé. Et cela vient de Dieu. Car en ce qui concerne le Christ, Dieu vous a accordé la grâce, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous êtes en effet engagés dans le même combat que moi. Ce combat que vous m'avez vu soutenir et que je soutiens encore maintenant, comme vous le savez. Ici, dans cette lecture que nous avons faite, l'apôtre Paul parle des quatre obstacles qu'on a parlé tout à l'heure, mais il donne surtout quatre principes, quatre solutions pour pas que ces obstacles viennent étouffer notre joie, pour pas que ces obstacles viennent empêcher notre joie d'être manifeste. Et le premier point que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est le suivant. Je peux être heureux en toutes circonstances si je vois mon problème comme Dieu le voit. Si je vois mon problème comme Dieu le voit. Ça fait une différence énorme. Au verset 12, l'apôtre Paul dit « Ce qui m'est arrivé a servi à faire avancer la bonne nouvelle. » Là, il donne une clé importante. Il faut comprendre la chose suivante. Quand l'apôtre Paul a reçu son appel sur le chemin de Damas avec Jésus-Christ directement, Jésus lui dit ce qu'il doit faire et qu'il doit partager la parole aux autorités de ce monde et qu'il doit faire réellement des nations des disciples, qu'il va aller dans les nations et les faire passer des ténèbres à la lumière. Et Paul, depuis le départ, a toujours eu un désir, on le voit lorsqu'on lit les épîtres, ces épîtres qu'il a écrits, qu'il a toujours voulu se rendre à Rome. Parce qu'à l'époque où l'Empire romain régnait sur terre, Rome était donc la capitale de puissance, la capitale prestigieuse, le point névralgique, le point stratégique. Et Paul savait que s'il touchait Rome et les autorités qui sont à Rome, il gagnait tout l'Empire. Il le savait. Et donc, il avait ce désir en lui fort d'aller à Rome. Et dans sa tête, Paul pensait peut-être arriver à Rome et faire un peu ce qu'il faisait dans les autres villes. Il allait arriver et prêcher la parole de Dieu et gagner des âmes comme à Corinthe où il y avait 3000 âmes, une foule nombreuse qui était prête à recevoir l'évangile de Jésus-Christ. Paul a dû se faire des films peut-être dans sa tête en se disant « Je vais aller dans le Colisée, le Coliséeum, et là je vais évangéliser, je vais prêcher Christ et les gens vont se donner au Seigneur. Je fais une campagne d'évangélisation puissante. » Et il arrive à Rome, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il est en prison. L'empereur Néron est vraiment démoniaque. Le gars déteste les chrétiens. Les chrétiens meurent martyrs. Et Paul est prisonnier. Et il ne voyait pas les choses comme ça. Mais au fur et à mesure, il commence à comprendre et à voir les choses comme Dieu voit. Il est plus concentré sur son petit problème à lui. Il voit la grande image. Il ne voit plus les choses de manière restreinte. Il voit comme Dieu voit. Et il dit ceci, comme on a lu tout à l'heure, ce qui m'est arrivé a servi à faire avancer la bonne nouvelle. Paul dit, waouh, je commence à comprendre que là, réellement, ce qui se passe pour moi, en fin de compte, contribue à faire avancer l'évangile au-delà de ce que j'espérais. Quel est le résultat? Il faut comprendre que comme il était prisonnier de la garde romaine, en général, les gardes changeaient environ tous les 4 heures. Pour pas que Paul, qui créait des émeutes partout dans l'Empire, puisse influencer et devenir camarade avec les gardiens. Et donc on changeait souvent de garde. Et en 2 ans de prison à Rome, on estime qu'il y a environ 4381 gardes qui a surveillé Paul à tour de garde. Et Paul a dû évangéliser la plupart de ces gars-là. À un tel point que dans l'épître aux Philippiens, à la fin du chapitre, il dit lui-même que la famille de l'empereur, certains se sont convertis. C'est bon. Il a commencé à voir qu'il était préférable pour lui qu'il soit en prison pour toucher les autorités à Rome. Parce que peut-être s'il aurait fait une campagne d'évangélisation dans le Colisée 1, les autorités n'auraient peut-être pas autorisé, et 2, il ne serait pas venu. Mais là, comme il est en prison, il les touche. Et il commence réellement à infiltrer et à influencer même la famille de l'empereur. Et en plus, en prison, il écrit la parole de Dieu. Un tiers du Nouveau Testament a été écrit par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit de lui-même, il dit de lui-même, en toute humilité, il dit « J'ai travaillé plus que tous ». Le gars était un bourreau de travail, comme on dit. Et peut-être parfois le Seigneur lui a dit « Paul, fais une pause, écris des choses pour les églises, écris pour les générations futures ». Paul a dû dire « Seigneur, oui, mais attends, là, il faut évangéliser telle ville, là, il faut évangéliser telle ville ». Le Seigneur a dit « Écoute, je vais m'occuper de toi, je vais te permettre d'être un peu tout seul un peu. Et je vais créer un endroit où tu es tout seul avec moi, tu vas pouvoir méditer, prendre le temps d'écrire. Parce que je veux que ton impact ne soit pas juste pour les générations de ton époque, mais pour les générations. » Et aujourd'hui, on est impacté par lui. Parce qu'il est resté en prison. À écrire. Et quand Paul a commencé à comprendre ça, il a vu la grande image. Et il écrit à ses amis de Philippe. C'est ses amis, c'est une note personnelle. L'église de Philippe a toujours soutenu Paul. Et il leur dit, hey, c'est bon, ne vous inquiétez pas, réjouissez-vous. Et en gardant cette joie dans l'épreuve, Paul est devenu un témoignage pour les non-croyants. Il dit, tous maintenant savent que je suis dans les chaînes pour la cause de Christ. Tous savent que maintenant je subis ça pour Christ. Et ensuite il continue en disant et tous les croyants ont reçu beaucoup plus de courage pour évangéliser. Quand tu commences à voir les choses comme Dieu voit et que tu traverses l'épreuve, la difficulté avec sa joie, tu deviens un témoignage pour les non-croyants et tu deviens un encouragement pour les croyants. Amen. Mais j'aimerais te dire ce matin ceci, la chose suivante. Voir les choses comme Dieu voit, ça s'apprend. C'est possible. Je vous garantis, ici ce matin, plusieurs d'entre nous, nous faisons face à des difficultés. Plusieurs d'entre nous, le problème, ton défi, ton problème dans ce moment te consume ou crée beaucoup d'inquiétude. Si tu penses autrement, si tu apprends à voir ta situation comme Dieu voit, tu auras déjà fait un pas énorme pour avoir plus de joie. L'apôtre Paul avait compris ça. Mais j'aimerais te dire la chose suivante. Nous voyons ce que nous sommes préparés à voir. Nous voyons ce que nous sommes préparés à voir. C'est très important de comprendre ce principe. Un exemple. Un jour, je marche avec un précieux frère de l'église. On était à la pêche, à Saint-Pierre, sur le port. Et on revenait de la pêche, et en marchant comme ça, il me dit, « Tu as vu la pieuvre, là ?» Je dis, « La pieuvre ? Où ça ?»« Là !» Je dis, « Où ? Il n'y a que des coraux. » Parce que la pieuvre, Elle est comme un endormi, comme on dit, un caméléon. Elle chante, elle prend la couleur du corail. J'ai pas vu, moi. Mais lui, son regard était exercé. Il s'est préparé à voir ce que moi, je n'étais pas préparé à voir. Et il me dit, approche-toi. Et je m'approche, je prends une longue tige et je touche. Et effectivement, il y avait une pieuvre. Juste sur le bord. Parce qu'on voit ce qu'on est préparé à voir. Un autre exemple, un jour, on regarde un concert chrétien avec deux autres frères. Et la même image, au même moment, un dit, oh, t'as vu les voix, les micros, tout ça, t'es canon. L'autre dit, waouh, la basse, c'est une telle marque. Et moi, je regarde, je dis, waouh, t'es l'église est super bien organisée. On voit la même image, mais on n'était pas préparé à voir la même chose. Parce que tu vois ce que tu es préparé à voir. Et ça, c'est très important et un principe hyper puissant. Tu vois ce que tu es préparé à voir. Mère Teresa a dit ceci. Elle a dit dans tous les malades, les malades avec lesquels elle a passé du temps, les malades qu'elle prenait soin, elle a dit ceci. Chacun d'eux, c'est Jésus qui est déguisé. Je vois chacun d'eux comme si c'était Jésus qui était déguisé en eux. Je vous garantis, il faut se préparer pour voir ça. Pour voir dans les frères et sœurs, Jésus qui s'est déguisé en Harold, en Sébastien, en Stéphanie, en Cédric. Si on n'est pas préparé, tu ne vois pas. Parce qu'on voit ce qu'on est préparé à voir. On voit ce qu'on est préparé à voir. C'est pour ça que on peut apprendre à voir. Mais ce n'est pas accidentel. Tu ne te réveilles pas le matin en disant « Oh, je vois tout le monde beau. » Jésus voit le pire des pécheurs comme une âme à sauver. Ça, c'est important. Devons réaliser ça. Donc on voit ce qu'on est préparé à voir. Cela signifie que pour voir notre problème comme Dieu voit, il faut penser autrement. Vous savez comment ça s'appelle ça? La repentance. Penser autrement, ça s'appelle la repentance. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Pense autrement pour voir le règne. Pense autrement pour voir et attendre le surnaturel. Pense autrement pour avoir les yeux de la foi et croire en l'impossible. Ça s'appelle repentance. La repentance, ce n'est pas faire pitié et juste demander « oh pardon, je me repens ». Et tu ne changes pas après. La repentance, c'est apprendre à penser autrement pour changer de comportement et changer d'attitude et changer d'habitude. Porter du fruit digne de la repentance, disait Jean-Baptiste. C'est-à-dire que votre changement prouve que vous pensez autrement. Mais penser autrement, ça s'apprend. C'est pour ça que si, ce matin, nous apprenons à voir les choses comme Dieu voit, je vous garantis, il y a déjà une joie qui va rentrer dans ton cœur. Parce qu'on croit qu'il faut que les circonstances changent pour qu'on soit heureux. Ça peut contribuer, mais en réalité, ça ne suffit pas. Ce qui fait la différence, c'est lorsqu'on change. Lorsqu'on change, même si les circonstances ne changent pas, alors on voit les choses comme Dieu voit et on peut être heureux. Alors la joie ne dépend pas de ce qui se passe, mais la joie dépend de notre relation avec Dieu. Et de notre perception, de comment on voit les choses. C'est pour ça que Jésus dit dans Matthieu 5, si votre lumière en vous est ténèbre, alors vous êtes dans les ténèbres. Il est en train de dire, attends, si à chaque fois, ce que tu vois, ce qui est en toi, tu vois uniquement le mauvais côté des gens, Tu vois uniquement les mauvaises choses dans la vie. Tu vois uniquement la crise. Tu vois uniquement ce qui ne va pas chez ton mari. Tu vois uniquement ce qui ne va pas chez ton épouse. Tu vois uniquement ce qui ne va pas dans la société. Tu vois uniquement ce qui ne va pas dans l'église. Tu vois uniquement ce qui ne va pas. Tu ne pourras pas te réjouir. Apprendre à voir les bonnes choses, ça s'apprend. Prendre l'habitude d'être heureux, ça s'apprend. Et ça commence par penser autrement. L'apôtre Paul a dû comprendre ça au fur et à mesure. C'est pour ça que là, à un moment donné en prison, il dit « Ok, c'est bon. Et ma pensée est alignée sur la pensée de Dieu. J'ai la grande image maintenant, c'est ok. Je ne laisserai plus maintenant les circonstances dicter ma joie. Je vais apprendre à voir la grande image, comment Dieu voit. » C'est important. Et ça me fait vraiment penser à ce chant. Qui me séparera ? Ce chant puissant de Karine, tonnerre de chant. De l'amour de Christ. Ta pensée te sépare. Parce qu'on voit avec la pensée. On voit avec la pensée. Si je te dis avion, tu vois un avion dans ta pensée. Si je te dis, est-ce que ça te dirait ce midi de manger un bon steak moelleux, magnifique, ou une bonne glace, ou là, une bonne eau fraîche, un bon coca frais. On visualise. Si je te dis, est-ce que tu aimerais boire un schtroumpf? Tu sais pas c'est quoi? Moi non plus. Tu peux pas le visualiser dans ta pensée. C'est pour ça que dans Romains 12, il est écrit... Soyez transformés par le renouvellement de votre pensée pour discerner la volonté de Dieu, pour voir ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. Soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Pense autrement. Pourquoi ? Pour voir différemment. Pense autrement, soyez transformés par le renouvellement de votre pensée pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. On voit ce qu'on est préparé à voir. Et pour se préparer à voir les bonnes choses, il faut être rempli bien sûr de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu et de la foi. Ça parle des yeux de la foi. Si quelqu'un est rempli de peur... Il ne va pas voir les bonnes choses. Donc, c'est important de comprendre ça. C'est juste un premier point, on pourrait vraiment partager encore plus dessus, mais il y a encore trois points à voir. Mais regarde ton voisin, dis-lui, prie et demande à Dieu de te permettre de voir ta vie et tes relations autrement. Point suivant, je peux être heureux en toutes circonstances si je ne laisse pas les autres contrôler mon attitude. Ça, c'est chaud. Si je ne laisse pas les autres contrôler mon attitude. Par exemple, sur la route, quand quelqu'un nous fait une queue de poisson, quelqu'un qu'on n'est même pas peut contrôler notre attitude. Et on perd la joie. Pouf! Et on est énervé, mais ce gars-là, il a brûlé le feu rouge, ça aurait pu arriver à un problème, t'es, franchement. Et ça, c'est difficile. Moi, j'arrive pas tout le temps. Et il faut qu'on progresse. Comme je disais tout à l'heure, ce message est plus facile à entendre qu'à pratiquer. C'est le message de toute une vie. Il y a des gens, comme on dit en créole, des fois, j'ai envie de les mettre deux tapins dans l'amour, mais bah! Et dire après, pardon Seigneur et je t'aime. Donc c'est pas facile. Mais si nous sommes francs, le nombre de fois par jour où on laisse l'attitude des autres nous voler notre joie. Oui ou non? Rien que dans le mariage déjà, c'est un bon entraînement. Entre mari et femme. Alors je te challenge pour la semaine qui arrive. Marie, laisse pas l'attitude de ta femme te faire perdre la joie. Femme, laisse pas l'attitude de ton mari te faire perdre la joie. Parents, ne laisse pas l'attitude de tes enfants te faire perdre la joie. Ne laisse pas l'attitude de tes collègues te faire perdre la joie. Laisse pas l'attitude de ton voisinage te faire perdre la joie. Laisse pas l'attitude d'un étranger que tu connais même pas dans la rue te faire perdre la joie. Et ne laisse pas tes ennemis te faire perdre ta joie. Et du boulot ? On pourrait juste s'arrêter là et dire bon, un travail. En réalité, c'est impossible. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'abandonne entre ses mains. Parce que ce qui n'est pas possible pour nous est possible pour lui en nous. Amen. Et l'apôtre Paul, dans Philippiens 1, 15, pour ce point, il dit « Il est vrai que certains d'entre eux annoncent le Christ par jalousie, avec des intentions polémiques à mon égard, mais d'autres l'annoncent avec de bonnes dispositions. Ceux-ci agissent par amour, car ils savent que ma mission ici, c'est de défendre la bonne nouvelle. Les autres annoncent le Christ dans un esprit de rivalité. Leurs motifs sont troubles. Ils pensent augmenter ma détresse de prisonnier. » Verset 18. « Leurs intentions peuvent être droites ou tordues. Peu importe. En tout cas, ils annoncent tous le Christ. C'est pourquoi je suis dans la joie et je me réjouirai encore. » C'est le gars dangereux. L'apôtre Paul dit « Il y en a qui sont cool. Waouh, ça c'est des amis, c'est des potes. Ils le font. Ils le font avec de bonnes intentions. Il y en a qui font exprès, mais vraiment exprès, pour m'énerver. Ils veulent, par un esprit de rivalité, me pourrir la vie et rendre ma vie plus difficile alors que je suis déjà en prison. » Et au verset 18, il dit « Je m'en fiche. Je m'en fiche. » Il dit que leurs intentions sont bonnes ou tordues. Jésus-Christ est annoncé. Quelqu'un est dangereux. Il dit « Jésus-Christ est annoncé. » Ils annoncent tous le Christ. « Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Toi pas content, moi content. » Il est en train de dire ça. « Eux pas contents avec moi, moi content. » Il est en train de dire « Je ne laisserai pas la méchanceté des autres me rendre méchant. » Voilà ce qu'il dit. Il est en train de dire ça, là. Il est en train de dire « Je ne laisserai pas le mal me conduire à faire le mal. Mais je vais tout faire pour triompher du mal par le bien. Je suis dans la joie. Christ vit en moi. » C'est ce qu'il dit ici. Peu importe de bonnes ou de mauvaises intentions. Regardez au verset 28 ce qu'il dit. Au verset 28, il dit « Sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. » Merci à eux. « En rien par les adversaires. C'est pour eux le signe qu'ils courent à leur perte et pour vous celui que vous êtes sauvé. Et cela vient de Dieu. » Il dit « Même mes ennemis, je ne les laisse pas m'affecter. C'est pas parce que les gens voient en moi quelqu'un de mauvais que moi, je vais voir en eux quelqu'un, des personnes mauvaises. » Il dit « Débrouille-les, Dieu les jugera. » Eux, ils me voient, ils pensent que je suis un imposteur, n'importe qui, mais je ne laisserai pas leur mauvaise façon de me voir faire en sorte que je les vois, moi, d'une mauvaise manière. » Il y a un verset dans Tite qui est dangereux. L'apôtre Paul dit « Tout est pur pour celui qui est pur. » Et tout est souillé pour ceux qui sont souillés. Il parle de ceux qui lui il a envie d'être bon. Et il a envie de voir les bonnes choses chez les autres. Il écrit à l'église de Corinthe, qui est une église totalement à côté de la plaque, pas au niveau de la puissance, mais ce qu'ils font, c'est un peu n'importe quoi. Et il écrit: vous êtes le temple de Dieu. Dieu vous aime. Vous êtes le peuple précieux. C'est impressionnant, parce que l'apôtre Paul était préparé toujours à voir le bon. Ça ne veut pas dire qu'il ne confrontait pas les mauvaises choses qu'il fallait confronter, il le faisait. Mais il ne laissait pas les autres contrôler son attitude. Et ça, c'est un point fort. Amen. Troisième point, je peux être heureux en toutes circonstances si je crois que Dieu peut faire concourir toutes choses pour mon bien. Dieu peut faire concourir toutes choses pour ton bien. Romains 8, 28. Il peut. Mais au verset 19 de Philippiens, il dit ceci. En effet, le résultat, je le connais. Je serai sauvé par vos prières et avec l'aide de l'Esprit de Jésus-Christ. Je désire que cela arrive et je l'espère vivement. Je ne le regrette pas, au contraire, je garde une grande confiance. Je garde une grande confiance. C'est super. Il savait que toute chose allait concourir à son bien et il garde une grande confiance. Toute chose peut concourir à ton bien. Tes erreurs peuvent concourir à ton bien. Les erreurs et la méchanceté des autres, ce qu'ils t'ont fait, peut concourir à ton bien. Prends l'exemple de Joseph dans la parole de Dieu. La méchanceté que ses frères lui ont fait ont concouru au bien de Joseph, mais aussi au bien des frères. Tes erreurs peuvent concourir à ton bien et au bien des autres. L'Ancien Testament est rempli d'exemples d'hommes et de femmes de Dieu qui ont fait un paquet d'erreurs pour notre bien. J'allais même plus loin. C'est fou. Tes péchés peuvent concourir à ton bien. Hein? Et au bien des autres. Ça ne veut pas dire que Dieu veut qu'on pêche. Non, il déteste le péché, mais il aime le pécheur. Mais il est capable de se servir de tout pour que cela concourt à notre bien. Est-ce que Samson a péché? Samson a péché grave. Et à la fin, malgré tout, cela a fait en sorte que ça concourt à son bien et au bien du peuple d'Israël. Il a goûté auparavant, malheureusement. Le péché n'était pas sans conséquence. Mais malgré tout, Dieu est capable de faire concourir toute chose à ton bien pour le bon fonctionnement de son plan dans ta vie. Dieu est capable de prendre ton passé et de faire un puissant témoignage pour délivrer les autres. Dieu est capable de faire en sorte que ça concourt à ton bien et au bien des autres. Qu'est-ce qu'il faut pour que les choses concourent à notre bien? La foi. L'apôtre Paul dit « Je garde une grande confiance. En effet, le résultat, je le connais. » Il dit « Hé, j'ai la perspective de Dieu, je connais le résultat, je vois comme Dieu voit. » Ensuite, il dit « Je serai sauvé. » Le gars croit en sa délivrance. « Je serai sauvé. » J'aimerais te dire ce matin que tu seras délivré de ton problème dans ce moment. Ton problème, il y a une date de préemption. Mais il faut que tu puisses croire et dire « Je serai sauvé. » Pas espérer, croire. La foi est une ferme assurance. Ton espérance est dangereuse, inébranlable. Et après, il dit « À cause de vos prières et l'aide du Saint-Esprit. » Il garde une grande foi. C'est pour ça que toute chose peut concourir à ton bien. Par la foi, tout ce qui t'est arrivé, tout ce qui m'est arrivé peut concourir à notre bien et contribuer à notre joie. Amen. Quatrième point, je peux être heureux en toutes circonstances si je me concentre sur la cause de Christ et non mon problème, sur le plan de Dieu et non mon problème. Si je me concentre sur sa cause, écoutez bien le verset suivant. Aujourd'hui, comme toujours, on verra en moi que le Christ est grand. Et j'aime ce verset. Extraordinaire. Je fais une pause juste pour moi, d'accord? Je relire. Ça m'encourage. Aujourd'hui, comme toujours, on verra en moi que le Christ est grand. Waouh! 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 Je veux dire, mais quelle façon de penser extraordinaire! J'ai envie qu'on voit que le Christ est grand en moi, en toi, dans son église. Qu'une femme dit à son mari, Christ est grand, toi. Que les enfants disent aux parents, Christ est grand, vous. Que vos collègues disent, mais Christ est grand, toi. Ce que l'apôtre Paul dit, c'est bon. Et en plus, après, il continue, il est dangereux. Soit par ma vie, soit par ma mort. Il n'est pas avec ça, vraiment. Oui, pour moi, vivre, c'est le Christ. Et si je dois mourir, j'y gagne. Mais si, en continuant à vivre, je peux faire un travail utile, je ne sais pas quoi choisir. Je suis tiré des deux côtés. J'ai envie de quitter cette vie pour être avec le Christ, et c'est en effet beaucoup mieux. Mais rester sur la terre, c'est plus utile à cause de vous. C'est pourquoi je sais que je vais rester. J'en suis sûr. Je serai auprès de vous pour vous aider à faire des progrès et à croire avec joie. Cet homme de Dieu-là est dangereux, amis. Il est dangereux. Il fait un plan personnel, et son plan personnel, c'est de mourir. Il dit, pour moi, le mieux, ce serait de partir. Avec Christ, j'aurais plus de combat, c'est la paix, c'est la joie. Arrête et tout le peu de gars qui sont en train de me prendre la tête, le peu d'ennemis. J'ai ma place au ciel, la couronne de justice m'est réservée. Franchement, il dit, j'ai fait ce que j'avais à faire. Le top, c'est que je parte. Mon plan, moi, c'est de dire, Seigneur, viens, prends-moi, s'il te plaît. Tu m'as déjà montré le ciel, j'ai eu un aperçu, parce qu'il parle de lui comme étant un homme qui est monté au troisième ciel, à un moment donné, dans une des épîtres. Mais il dit, bon, pour vous, pour nous, le peuple de Dieu, il dit, mais pour vous, c'est plus utile que je reste. Il dit, pour vous, je vais rester. Après, il dit, mais même à cause de vous, je suis sûr que je vais rester. Il dit, pour vous, je vais rester pour contribuer à votre progression dans la foi, pour que vous puissiez croire avec joie. Paul était focalisé sur le plan de Dieu, parce que le plan de Dieu, c'est son peuple. Le plan de Dieu, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, et aimer son prochain comme Jésus les aime. Le plan de Dieu, c'est d'aimer Dieu, de servir Dieu. Le plan de Dieu, c'est d'aimer les autres et de servir les autres. Je disais hier, il n'y a pas de meilleur cadeau que d'apprendre à aimer les autres comme Jésus les aime. Marie, apprends à aimer ta femme comme Jésus l'aime, tu vas voir. Femme, apprends à aimer ton mari comme Jésus l'aime, tu vas voir. Il n'y a rien de mieux. Et Paul dit, et je vais faire en sorte de rester là pour vous, puis j'ai progressé dans la foi. Il dit, Christ, c'est ma vie. Il ne vit pas pour lui, il vit pour Christ et sa cause, pour son peuple, pour les autres. Cela signifie que l'égocentrisme est un tueur de joie. Il montre là qu'il ne vit pas pour lui. L'égocentrisme est un saboteur de bonheur, un tueur spirituel, un terrorisme spirituel, un serial killer. L'égocentrisme enlève notre joie. Merci. L'apôtre Paul ne vivait pas pour lui. Il dit, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Son plan, c'est Christ. Et le plan de Dieu, c'est Christ. C'est ça.